C'est toujours un bonheur. C'est toujours une grâce. Quand les enfants de Dieu peuvent écouter la parole de Dieu. Et la parole est vivante. Et la parole nous sauve. Je me souviens d'un pasteur protestant, une personne qui m'a marqué dans ma vie spirituelle, Thomas Roberts. On l'appelait Monsieur Pentecôte. Thomas Roberts dit, un jour on lui a posé une question, mais qu'est-ce que vous attendez avec tout ce que vous faites? Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Et Thomas Robert dit, j'attends l'inattendu de Dieu. Au fond, s'il y a quelque chose dont nous devons tous être d'accord, c'est être vigilant à ne pas nous habituer. Et on peut venir à la célébration eucharistique comme une habitude. Au fond, ben c'est une messe, quoi. On a l'expérience. Et Thomas Robert dit, mais moi, j'attends toujours l'inattendu de Dieu. J'aime voir Dieu me surprendre là où je ne l'attends pas. C'est pourquoi je reste vigilant. Alors je voudrais que nous puissions partager ensemble cette deuxième lecture de ce deuxième dimanche de temps ordinaire. Les trois textes sont assez forts. Et que ce soit comment Dieu nous parle à travers la première lecture de 1 Samuel au chapitre 3, comment est-ce que Dieu nous parle? Comment reconnaître la voix de Dieu? Comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Ou bien cette question dans l'évangile de Saint Jean où Jésus se retourne vers ses deux disciples qui se mettent à le suivre et il leur dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Que cherchez-vous? Et là, nous sentons que Jésus nous pose des questions pour susciter quel est mon désir le plus profond. Qu'est-ce que tu cherches en vérité? Que cherches-tu? Mais je voudrais rester simplement sur la deuxième lecture. Parce que vous êtes des charismatiques, d'après l'écho que j'ai entendu. Et quand vous êtes des charismatiques, vous aimez le Saint-Esprit. Vous aimez le Saint-Esprit, n'est-ce pas?
Amen.
Ah, c'est pas assez fort. Vous aimez le Saint-Esprit?
Amen.
Gloire à toi, Seigneur. Alors nous allons nous arrêter sur cette deuxième lecture. Si vous avez vos Bibles, bien sûr, je peux vous donner les références. C'est toujours agréable d'être avec les gens du renouveau charismatique. Ils ont tous une Bible. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 6. Alors, le texte que nous avons lu commence par le verset 13, mais je préfère que nous prenions à partir du verset 12. Jusqu'au verset 20. Bon, c'est des morceaux, hein. Mais voilà, 1 Corinthiens 6, à partir du verset 12. Jusqu'au verset 20. Ça va? Vous avez trouvé? Paul commence par dire au verset 12, parce qu'il faut comprendre le contexte avec les chrétiens de Corinthe. Ils ont vécu une expérience extraordinaire du salut. Ils ont été affranchis du péché, de la mort, par le salut que Jésus a opéré, par sa mort sur la croix. Donc ils sont libres. Ils sont libres. Alors ils se posent la question de la liberté. Et alors les chrétiens de Corinthe ont un slogan assez extraordinaire, « Tout m'est permis ». Au verset 12. « Tout m'est permis, je suis libre ». Alors Paul va attirer leur attention au verset 12 en disant, « Tout nous est permis, c'est vrai, mais... » Tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, je peux tout faire. Je peux tout dire. Je peux tout vivre. Mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, dit-il encore, mais je ne veux rien qui me rende esclave. Donc finalement, la vraie liberté pour un enfant de Dieu, dit Paul, c'est d'être attaché à Dieu. Tout m'est permis, mais il y a des choses qui peuvent me rendre esclave. Et Paul dit, jamais je me laisserai enchaîné comme un esclave. Parce que dans Galates chapitre 5, verset 1, il est dit, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors ne reprenons plus les chaînes de nos anciens esclavages. Voilà pourquoi Paul redit aux Corinthiens, tu es libre parce que le Christ t'a affranchi par sa mort sur la croix, mais attention, ne laisse rien t'enchaîner. Et c'est comme ça qu'il va dérouler le rouleau du livre. Et nous voyons que dans la suite de ce texte de 1 Corinthiens 6, bien sûr, il va parler de quelque chose de très beau. Très beau. Enfin, pour moi, c'était très beau. Frère, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Vos corps sont les membres du Christ. Et c'est ce que je trouve très beau. Celui qui s'unit au Christ ne fait avec lui qu'un seul esprit. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Est-ce que c'est pas beau ça? Alors tout l'enjeu, c'est, il s'agit de l'union. Avec quoi est-ce que je vais faire mon union? Avec qui je vais m'unir? Tu t'es uni à qui? Et Paul dit, si tu t'unis avec le Seigneur, avec lui, tu fais un seul esprit. Un deuxième point, et puis je vais développer un peu. si j'ai le temps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit. Lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Car vous avez été acheté à grand prix. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous êtes des tabernacles. Je pense que vous avez l'expérience, hein. Ce que je dis n'est pas nouveau, hein. Vous êtes des grands charismatiques. On vous a dit beaucoup de choses. Mais je vais le dire avec mes mots à moi. Nous appartenons à quelqu'un. Nous appartenons au Christ. Et dans Romains 14, à partir du verset 7 à 9, ou 7 à 8, Paul dit, « Frère, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Car dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. » C'est une grâce de le savoir ou de se l'entendre redire. Tu appartiens à quelqu'un. Tu appartiens à Dieu. Et tu vis maintenant pour lui. Et c'est un honneur d'avoir été appelé par Dieu. Alors l'enjeu, c'est que Paul nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Paul dit, dès l'instant où tu as rencontré Jésus-Christ, dès cet instant où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu dans ta vie. Et c'est le même Esprit Saint qui est descendu sur Jésus-Christ qui est descendu dans ta vie. Et Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2, l'avantage d'avoir reçu la personne, son excellence, le Saint-Esprit. Il dit ceci au chapitre 2 à partir du verset, je prendrai à partir du verset 9. Rappelez-vous qu'il est écrit, des choses que l'œil n'a pas vues, que pas une oreille n'a entendues, qui ne sont venues à l'esprit de personne, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour tous ceux qui l'aiment, ce qui n'est pas encore arrivé aux oreilles des hommes. Ce qui n'est pas encore visible aux yeux des hommes, ce qui n'a pas encore touché la pensée des hommes, Saint Paul dit, et il affirme, toi, à toi, cela a été révélé par le Saint-Esprit. Cela montre l'importance que tu as aux yeux de Dieu. Cela montre quelle vie tu as aux yeux de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Et quand on a le Saint-Esprit, excusez-moi, c'est-à-dire que nous avons reçu les dons du Saint-Esprit. Ça veut dire que mon âme est pénétrée de la paix, de la joie, de la force, de la maîtrise de soi. et que mon âme n'est pas lourde, fatiguée, écrasée, et que je ne vis pas la dépression. Parce que j'ai reçu une onction particulière, la force du Saint-Esprit. Et Paul va nous dire encore, dans 1 Corinthiens chapitre 2, je poursuis. Voyez, personne ne nous connaît comme notre propre esprit, parce qu'il est en nous. De même personne, je suis au verset 11, hein, de même personne ne connaît les choses de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu. De telle sorte qu'il nous fait connaître ce que nous avons reçu de Dieu. Voilà ce dont nous parlons, non pas en termes convenus de la sagesse humaine, mais avec ce que nous enseigne l'Esprit. Et nous interprétons ce qui est spirituel pour ceux qui sont des spirituels. En d'autres termes, Paul dit, il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous dire qu'est-ce que Dieu veut maintenant. Et parfois, nous disons, mais je ne sais pas ce que Dieu veut. Et Paul dit, mais attention, tu as reçu l'Esprit de la révélation. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois savoir en ce moment ce que Dieu veut. Car l'Esprit veut ce que Dieu veut. 1 Corinthiens chapitre 2. L'Esprit ne veut rien d'autre que ce que Dieu veut. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et accomplir la volonté de la chair. Voilà pourquoi Paul prend conscience de l'enjeu. Paul comprend l'enjeu de ce moment que nous vivons. Il comprend que si nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est pour marcher selon la force du Saint-Esprit. Amen. Mais il s'avère que certains ont reçu le Saint-Esprit, mais continuent à marcher selon la force de la chair. Et il existe encore des personnes à qui on dit, il faut pardonner. Alors moi, jamais je ne pardonnerai. Alors tu manifestes ainsi que tu n'es plus en communion avec Dieu. Car si tu reçois l'Esprit de Dieu, tu es un avec Dieu. C'est une grâce et un privilège d'accueillir son excellence, le Saint-Esprit. Mais encore faut-il laisser le Saint-Esprit guider notre vie. Il fera de nous des enfants de roi. Il élèvera nos âmes. Il nous donnera la consolation. C'est l'Esprit promis, notre défenseur. Dans ce monde, on a besoin d'enfants de lumière. Où sont les enfants de lumière? Vous savez, un jour, je vous partage rapidement quelque chose comme ça. Amen. Je suis tombé un jour sur un texte de Paul, aux Romains au chapitre 8, et j'ai entendu Paul me dire, la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. J'ai eu peur. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Où sont les enfants de Dieu? Où sont les enfants de lumière? Où sont les charismatiques? On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour aller dormir au champ. On ne reçoit pas le Saint-Esprit pour se laisser guider par le monde. On reçoit le Saint-Esprit pour faire avancer le monde vers la lumière de Dieu. Parce que vous êtes la lumière, dit le Seigneur. Et puis s'il vous plaît, vous savez, la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Jésus n'a pas dit, vous allez essayer d'être la lumière. Il dit, vous êtes. Ce que Dieu dit se réalise. Vous êtes la lumière du monde. Et pourtant, tu continues à consulter les horoscopes. Alors nous allons demander au Seigneur, s'il te plaît, Saint-Esprit, viens. Viens faire ton œuvre en nous. Il y a dans ma vie beaucoup de choses. Certains en venant, certainement sont arrivés avec de mauvaises nouvelles. Mais je bénis Dieu parce que malgré ces nouvelles, vous êtes là. Certains, en se levant aujourd'hui pour arriver ici, ont senti des douleurs dans leur corps. Je bénis Dieu parce que malgré toutes ces choses, vous êtes là. Et si nous sommes là maintenant, nous devons laisser le Seigneur agir en nous. Nous devons laisser la place au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Paul nous demande de nous débarrasser de certaines choses dans nos vies qui nous alourdissent, qui font que l'Esprit Saint n'est plus excellent, que l'Esprit Saint n'a plus de goût. Et quand nous écoutons cette première lecture, nous voyons que, au fond, ce qui est important dans notre vie chrétienne, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est savoir se retirer pour avoir des temps de silence, pour écouter Dieu. On n'a plus de temps de silence. On parle beaucoup. On parle trop. Et Dieu ne peut plus parler. Même à l'adoration, on continue à parler. Oh Seigneur, tu sais pourquoi je suis là. Oh Seigneur, écoute-moi. Oh Seigneur, je t'en supplie. Au revoir Seigneur. Laisse-moi te parler un peu, mon enfant. Ayons une vie de qualité, de relation. Si nous voulons grandir dans la vie spirituelle, essayons d'éménager dans notre vie, dans notre journée, des espaces de silence intérieur pour écouter le Seigneur, pour écouter l'Esprit Saint. Et une deuxième chose, je ne peux pas dormir comme si de rien n'était. Avoir ces moments dans ma vie, à la fin de la journée, où je peux rendre compte à Dieu, je peux faire le bilan de ma journée avec lui, ce qu'on appelle une prière d'alliance. Que le soir, je puisse dire au Seigneur, merci. Merci pour ce qui a été, pour tel ou tel moment de ma journée. Pardon. Pardon pour ce qui a raté. Là où j'ai pas été à la hauteur. Là où j'ai fui mon engagement. Là où je n'ai pas marché dans ta lumière, pardonne-moi. Et puis c'est aussi l'occasion de se pardonner en famille, en couple, faire la paix. Et enfin demander la grâce. Seigneur, s'il te plaît, fais que demain, je sois meilleur que je n'ai été aujourd'hui. Et c'est en vivant dans cette capacité de savoir trouver des espaces de silence pour écouter le Seigneur, soit dans la méditation de la parole de Dieu, soit dans l'adoration du Saint-Sacrement, ou dans l'Eucharistie, avoir ces espaces de silence pour écouter Dieu. Et enfin, ces moments où je peux, dans ces trois points, merci, pardon, s'il te plaît, je peux alors me rendre compte des lieux où j'ai manqué. Et je peux alors me réconcilier avec le Père et demander la grâce pour affronter la journée de demain. Demandons au Seigneur de venir nous combler de son Esprit Saint et proclamons encore notre amour à Dieu. Que nous puissions dire, Saint-Esprit, je t'aime. Fais de moi ce que tu veux. Viens changer ma vie. Change ma destinée. Parce qu'il est écrit que désormais je ne vis que pour toi. Que ta volonté soit manifeste maintenant même dans ma vie. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.